Bon, alors, ce soir, c'est donc la deuxième... C'est donc ce soir la deuxième séance de ce séminaire école. Hein, vous m'entendez pas ? Mais je dois vous dire que j'ai suivi, grâce aux merveilles de la technique, j'ai pu suivre la séance dernière que j'ai écoutée. Et donc, je vous demanderai instamment, quand vous prenez le micro, de ne pas parler trop près du micro, parce que sinon, ça sature, et dans l'enregistrement, on n'entend pas très bien. Donc, le mieux, c'est de parler fort, mais un petit peu à distance de cet engin. Donc, j'ai écouté les débats, et donc, je vais essayer de continuer à animer dans le fil de vos préoccupations. J'ai cru comprendre que vous aviez remarqué la dernière fois que, au fond, il n'avait pas été tellement question du transfert dans la question est-ce que le transfert y est pour quelque chose dans la durée des analyses. Alors vous allez voir, je pense que ce soir il y a peut-être un bout de réponse qui viendra du côté des gens qui ont présenté leurs travaux ce soir et que je vous présente. Donc Sylvana Clastre, qui est psychanalyste, membre de l'EPFCL, psychanalyste à Paris, je crois, et Cathy Barnier, qui est aussi psychanalyste et membre de l'EPFCL. Donc on va commencer tel que c'était écrit sur l'affiche. Donc je passe la parole à Sylvana, qui parle sous le titre « Le temps des analyses, un temps au singulier », c'est ça ?
Oui.
Ça n'a pas changé.
On peut bouger ou c'est attaché ?
Voilà.
C'est bon ? Au moment de la discussion qui a suivi la première soirée de ces séminaires, parmi les interrogations qui ont été soulevées, il a été question de savoir jusqu'où les discours menés par les écoles dans leur enseignement pouvaient envahir les cures et influencer, sinon les conditions de fin d'analyse, leurs témoignages dans les dispositifs de la PASS. Marc Strauss, dans la présentation du séminaire école de cette année, avait souligné les choix du conseil d'orientation de l'école de demander l'intervention de quelques collègues, je les cite, pas trop éloignés encore du temps de leur expérience analysante. Cette proposition cherchait, me semble-t-il, à éviter l'enfermement dans les discours officiels pour laisser place à ce que d'original, du particulier, peut aussi faire école. L'œuvre de Freud a été originale. Et Lacan, tout en poursuivant sur cette voie, a surtout insisté sur ces points de singularité dans son école, avec la proposition du 9 octobre 1967, et en particulier avec les dispositifs de la PASS. Un dispositif qui fait cadre au témoignage du fin d'analyse et du passage au désir d'analyste. Mon intention ce soir, c'est de partager avec vous des questions et des réflexions à partir de ce que je pense avoir appris lors d'une rencontre analytique particulière, faisant bien attention, bien entendu, à éviter tout piège d'un témoignage en dehors de la PASS. Il n'y a pas d'analyse type. Le temps d'une analyse sera celui nécessaire pour interroger la jouissance en question pour chaque sujet. Jouissance réactualisée en analyse dans les transferts au sujet supposé savoir. L'analyse qui va orienter mon exposé s'est faite en trois temps, avec trois analystes dans deux continents et deux langues différentes. Autant chacune de ces trois analyses ont été uniques dans la singularité du temps de travail de chaque cure et dans la particularité du mode et du moment de transfert à chaque analyste, autant dans l'après-coup, c'est de quoi finalement il s'agit, c'est du trois temps d'analyse d'une seule cure. Premier temps, l'instant du voir ou, après Freud, la découverte de l'inconscient. Qu'est-ce qui nous amène à demander une analyse? Nous savons d'une demande qu'elle est rarement, ou plutôt jamais, ce que nous croyons demander. Un exemple, la demande de ceux qui d'emblée demandent une analyse pour devenir analyste. Puisque nous ne pouvons pas savoir de quoi s'agit, avant d'avoir d'abord rencontré son inconscient, puis, à l'issue d'une cure, son désir d'analyste. Cela n'empêche pas qu'il faille accueillir cette demande comme une autre pour vérifier ce que dans les travails et dans les transferts, elle peut en devenir. En tout cas, le plus souvent, nous demandons une analyse parce que le symptôme qui nous représente nous fait trop souffrir. Parfois nous paralyse, voire nous empêche de vivre. C'est le symptôme en tant que manifestation du trop de jouissance. C'est trop qui excède les principes du plaisir. Le symptôme, cette partie visible de l'iceberg qui représente, qui traduit, qui va signifier l'évitement de l'impossible de la relation du sujet au réel. Mais pas tout symptôme va déclencher une souffrance qui puisse conduire un sujet à demander une analyse. Il y a des symptômes dont je dirais qu'ils peuvent être particulièrement réussis. Réussi dans sa fonction de border de façon symptomatique, certes, mais pendant un certain temps efficace, les trous. Réussi parce que, dans son rôle de voiler la castration, le manque, il peut faire écran. Il protège les sujets de son inconscient et, par conséquence, de sa division, évitant ainsi les trous d'angoisse. Je pense par exemple aux symptômes phobiques, surtout quand l'objet phobique peut être facilement évité par le sujet. Je vous cite une phrase de Colette Soler dans son texte « Les plus du temps ». Le seul signifiant de sa phobie lui sépare de l'angoisse. Difficile alors de demander, et plus difficile encore d'entrer en analyse, en étant si bien protégé. Il faut du temps pour qu'à un moment ou un autre, la fonction du symptôme ne tienne plus, que les réels fassent éruption et démontent cette construction. Nous nous référons souvent à l'amour et à la haine comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. En conséquence, plus l'amour est important, plus l'inverse, la haine, lui sera aussi. Nous pouvons peut-être dire que plus le symptôme a été efficace, réussi, plus difficile et violente sera la retrouvaille, les trouver à nouveau, du manque. Une fois ces moments arrivés, le sujet est happé, débordé, c'est le cas de le dire, par les réels, par toutes ces choses impossibles à dire, et c'est alors qui, parce qu'en analyse, il va découvrir son inconscient. ce n'est pas parce que Freud a découvert l'inconscient et que désormais c'est une évidence que nous savons d'avance de quoi il est question. Je pense qu'on ne peut rencontrer vraiment l'inconscient que lors d'un travail d'analyse. Découvrir son inconscient, c'est pour moi l'instinct du voir lors d'une cure. C'est comme ça que je m'oriente dans ma clinique, et tel a bien été le cas dans les vécus de cette expérience singulière. L'évidence de cet instinct s'est traduite par une phrase et ensuite par la rectification de la position du sujet. Une phrase sur laquelle je vais revenir à la fin de mon exposé. Quid du transfert dans ces premiers temps? En écrivant ces textes, et toujours en référence à cette analyse en particulier, les mots qui m'est venu a été massif. Le temps de cette cure, un déménagement d'un pays à un autre, n'a pas empêché la poursuite du travail en cours. Et c'est dans la poursuite de ce travail que la possibilité d'un point d'arrêt à cette analyse et à ces liens transférentiels a pu avoir lieu. J'ai dit bien un temps d'arrêt, puisque en ce qui concerne la cure, il n'était pas question d'une fin. Je pense pouvoir dire qu'à l'issue de ces premiers temps, il y avait un sujet moins naïf de sa division et du nœud où il s'y trouvait. Ce qui n'a pas été sans rapport avec quelques avancées aussi d'ordre thérapeutique en surplus. Deuxième temps, le temps pour comprendre, il est moment de conclure volé. Comment faire avec le temps pour comprendre quand, névrose oblige, on ne veut pas savoir, quand on ne veut pas renoncer à une forme, à un mode bien établi de jouissance, un mode de jouissance qui aide les sujets à être. Lacan, dans les moments du conclure, s'y réfère à la psychanalyse comme une pratique qui durera ce qu'elle durera. C'est une pratique du parloir, disait-il. Dans une analyse, le sujet va parler, associé librement. Il va chercher un savoir qu'il croit trouver dans l'autre, le sujet supposé savoir. Si dans un premier temps, le sujet peut paraître chercher à comprendre, chercher l'essence, par sa prise des paroles, il va se retrouver dans la faille, dans la limite du symbolique. Ces points d'impossible du symbolique face au réel. Tout au long d'une analyse, dans son rapport au symbolique, dans son rapport au langage, l'analysant sera rappelé à sa condition du patou. Ce sont toutes ces petites rencontres avec cette forme de castration logée dans les langages qui, dans une cure, vont mener les sujets peu à peu à l'évidence et à l'irréversible de sa division. Et c'est à partir de cette division et de la répétition qui insiste à essayer de la recouvrir qu'il pourra interroger et s'y mettre au travail sur sa forme de jouissance. Les modes de jouissance du sujet va s'y révéler en analyse être celui dicté par les fantasmes. Les fantasmes, cette construction inconsciente, par où le sujet répond à partir de la place qu'il suppose être la sienne dans les désirs de l'autre. De cette construction, le sujet en perd la trace. Il ne la reconnaît pas, ne la retrouve plus. Il la subit, il la vit, il s'y identifie. Ce qui reste de ces modes singuliers de jouissance, c'est ces modes singuliers de jouissance inscrits comme une empreinte qui va baliser, donner les repères, déterminer la position du sujet dans son lien à l'autre, au grand comme au petit, au grand autre comme les petits autres. Il faut du temps, le temps qu'il faut, pour se résigner à abandonner ce qu'on a, aussi imaginaire soit-il, pour ce qu'on n'a pas. Le temps pour comprendre sera le temps nécessaire pour qu'à partir du décryptage du mode de jouissance dans la cure, il soit possible d'y retracer, d'y réécrire la voie inconsciente du fantasme. On ne pourra pas cerner le fantasme avant une analyse. Il va se construire dans la cure. C'est un travail difficile, souvent fastidieux, lent, frustrant, douloureux. Le sujet peut parfois ressentir la cure comme plusieurs années d'errance sur les pistes tortueuses de son inconscient. Un travail qui ne pourra s'y tenir que par l'amour du transfert et par la croyance que quelque part dans l'autre, il y a un savoir. L'analysant actualise, il répète dans les transferts son mode de jouissance. Il va essayer d'occuper dans les désirs de l'analyste la place d'objet d'amour. Il va chercher une connivence, une réponse de l'autre, du petit autre de l'analyste. Mais, justement, dans la cure, il n'y a pas de petit autre de l'analyste. L'analyste ne répond pas. Il ne répondra pas, ni à partir du savoir qui lui est supposé, ni à partir de son lieu de jouissance, d'où il pourrait croire y jouir de la place qui lui est accordée par les transferts, faisant de l'analysant son objet. Dans une analyse, dans les temps pour comprendre, la place vide du désir incarné par l'analyste va laisser les sujets seuls, sans réponse, confrontés à ce qu'insiste de son mode de jouissance. Face à l'absence de réponse de l'autre, du grand autre, à la question « Que m'y veut-il ?», le sujet pourra s'interroger sur ce qui jusqu'alors était un point de fixation, de répétition. Le travail qui va permettre de cerner les fantasmes s'y fera dans les contresens de la voie des jouissances. Les désirs de l'analyste tout au long d'une cure va être celui de l'absence de tout autre désir, sinon celui du faire place au vide, celui du désir suspendu. Ce qui fait de cette rencontre une rencontre unique, puisque le sujet ne la retrouvera nulle part ailleurs. Les désirs suspendus et les manques de réponse de l'analyste vont aussi, et c'est là tout au long de la cure, rendre possible d'interroger l'amour du transfert et les transferts au sujet supposé savoir. Le temps d'une analyse, le temps pour comprendre, sera aussi celui nécessaire pour désenchanter les transferts, vider les transferts de son sens. Tel avait été le cas quelques années plus tard dans ce deuxième temps de cure. L'évolution des questions déjà citées dans mon exposé et la rectification de la place occupée par les transferts laisser envisager les moments de conclure cette analyse quand la cure a été interrompue par les décès de l'analyste. La mort, les réels qu'habitent l'autre, les lieux de l'autre, du grand autre, barrés. Il est resté de ce travail interrompu, proche de sa fin, les ressentis d'un arrachement, d'une forme d'injustice, de ces moments de conclure volés. Volés parce que l'acte de conclure ne peut, lui aussi, s'y passer que dans la cure. Troisième temps, l'acte de conclure ou l'art de faire avec l'impossible. Une troisième analyse qui s'est avérée dans l'après-coup être le troisième temps de cette cure a donc eu lieu. Cela a été un travail bref mais intense. Bref, parce que c'était l'analyse la plus courte des trois dans les temps chronologiques habituels. Les trois temps y étaient. Dans cette analyse, les trois temps y étaient. L'instant du voir, autour des deuils au pluriel, les temps pour comprendre et la singularité du mode de transfert envers cette troisième analyste, puisque autant il a fallu de la part de l'analysant encore du transfert pour faire exister l'analyste, autant en ces moments de la cure, les sujets n'étaient plus dupes du lieu de l'autre supposé savoir. Et très vite, l'évidence du troisième temps, les moments de conclure. Pour ne pas m'égarer et risquer les pièges cités au début de cet exposé, je ne vais pas développer les trois temps de cette analyse. Mais je vais partager avec vous encore trois réflexions avant de conclure. Première réflexion, il y a eu une phrase. Sol Aparicio, dans son texte « Les présents de la fin », cite Lacan faisant référence à l'instant du fantasme. L'instant du fantasme qui ouvrirait sur les moments de conclure. Il est vrai que peu avant les moments de conclure cette cure, il y a eu l'émergence, la construction d'une phrase qui cernait les modes de jouissance du sujet à partir de la place qu'il était censé occuper dans les désirs de l'autre. Mais, singularité encore une fois oblige, il s'agissait de la même phrase déjà mentionnée au premier temps de cette cure. Des années de travail d'analyse après, le sujet l'a retrouvé au bout de la cure, avec le naturel et la surprise d'une grande évidence. Mais c'était donc ça. Vous pouvez ajouter toutes les interrogations, exclamations que vous voulez à cette phrase. En effet, ce n'est pas possible d'effacer ou de modifier un mode de jouissance. C'est inscrit, ça va rester. C'est la position du sujet face à son plus de jouir qui va, à la fin de l'analyse ou d'une analyse, changer. Je pense pouvoir dire que lors du premier temps de cette cure, cette phrase a émergé non pas issue d'un travail de construction, mais comme un moment d'ouverture inconsciente, un éclair. Comme ils peuvent arriver dans les rêves, dans les lapsus, dans l'acte manqué. Ouverture inconsciente qui laisse au sujet la possibilité de s'enfermer et s'y défendre aussitôt. La différence dans la deuxième rencontre, c'est que si l'énoncé de la phrase retrouvée à la fin de la cure était le même, les sujets de l'énonciation et sa position face à son mode de jouissance ne l'étaient plus. Deuxième réflexion, il y a eu un transfert. Nous entendons beaucoup parler de la place du transfert tout au long d'une cure. Elle ne sera pas la même au début et à la fin d'une cure. J'évoquais plus tôt dans mon exposé les transferts au sujet supposé savoir est ce qui, entre autres, va soutenir l'analysant en analyse. C'est la croyance qu'il y a un savoir, une réponse à sa question, qui le maintient au travail. Cette croyance va être confrontée au manque des réponses de l'autre, tout au long de la cure, jusqu'à ce que les sujets puissent concevoir qu'il manquera toujours quelque chose pour atteindre l'essence. Il y aura toujours de l'impossible dans les rapports au savoir, et que l'autre de l'analyste, les grands autres de l'analyste, est aussi barré. En opposition, nous pouvons peut-être nous interroger sur la position du transfert qui n'évolue pas au long d'une cure. Est-ce que nous pouvons dire qu'un transfert qui s'est fait indéfiniment peut être révélateur d'une impasse de la cure, signe d'un sujet figé dans une position imaginaire, celle de la recherche du sens, d'un savoir logé toujours quelque part, position qui recouvre les réels et avec lui l'impossibilité de tout dire. Les transferts et ce que de la part de l'analysant autorise l'analyste. Et si le temps du transfert est le temps nécessaire pour mener le sujet au bout de son travail d'analyse, à la fin, c'est tout naturellement que ces liens s'y vident de sens. Les sujets supposés savoir du transfert, vides de sa fonction, n'existent simplement plus. Que s'y passe-t-il donc si nous avons besoin ou les désirs pour une raison quelconque d'y reprendre après la fin d'une cure une nouvelle analyse? Il y a sûrement plus d'une réponse à cette question. Moi, je vais essayer d'y répondre à partir de la position du sujet au moment de la demande de cette troisième analyse lors de ces derniers temps de cure. Je pense que dans cette cure et à ces moments précis, il était moins question d'un transfert à un analyste qu'à une éthique, celle de la psychanalyse. Troisième réflexion et dernière, il y a de l'impossible. Il faut du temps pour une analyse, pour les raisons que je viens de vous exposer, mais aussi parce que le sujet s'y défend, s'accroche, résiste. Pire, il est aveuglé par sa croyance. Il ne veut pas savoir qu'il n'est pas tout non plus dans les désirs de l'autre. Chaque analyse a son temps, mais surtout, il faut du temps pour concéder l'évidence qu'on ne peut pas s'y guérir de sa division. Il faut du temps pour faire le deuil, de l'être pour la mort, comme nous dit Heidegger, ces points du réel qui habitent chaque sujet. À la fin d'une analyse, il faut savoir faire autrement avec l'impossible pour sortir de l'impasse. Nous entendons souvent parler des chutes à la fin. Chute du transfert, chute de l'objet, etc. En effet, il y a beaucoup de désidéalisation à la fin d'une analyse. Et parmi ces désidéalisations, celle qu'à la fin de ce long travail, il ne s'agit pas forcément de se retrouver avec une grande révélation, mais plutôt avec la surprise de se retrouver autrement, dans le mieux faire avec sa jouissance et celle de l'autre. Et puisqu'à la fin de la cure, il est question d'un point d'impossible, un point d'irréel, le symbolique ne suffisant plus, c'est par l'acte que le sujet arrivera à conclure. Finir une analyse, c'est franchir par l'acte le manque de garantie. Un moment de solitude, un peu comme lors d'une naissance, un pari qui fait le sujet de pouvoir mieux vivre sa division. Après une cure, il se peut que l'émergence d'un nouveau désir, les désirs inédits de Lacan à la fin de son enseignement, les désirs d'analyste s'imposent. Il s'y peut. Le désir d'analyste, histoire pour un autre témoignage. Merci.
Merci Sylvana. Donc maintenant on va écouter Cathy Barnier dont le titre est Un dernier camp, camp retranché.
Alors, nous avons choisi cette année de nous interroger sur les raisons de la durée des analyses. Et avant d'entrer dans le vif du propos, je voudrais rappeler les divers sens du mot durée, lesquels nous indiqueront peut-être plusieurs axes de réflexion. Selon le dictionnaire, la durée, c'est donc un espace de temps, une période mesurable pendant lequel a lieu un événement, un phénomène, une action, un état. On parle de la durée d'une expérience, d'une épreuve, mais aussi d'un contrat ou d'une option. C'est aussi la qualité de ce qui se maintient pendant une période relativement longue. On parle alors dans ce cas de permanence, de persistance ou de résistance. En musique, c'est un temps pendant lequel on doit maintenir un son, une valeur ou un silence par rapport au mouvement et à la mesure du morceau. Et en phonétique, le temps d'émission d'une unité phonique. Enfin, c'est aussi la qualité subjective du temps en tant que vécu individuel qui s'oppose au temps mesurable et formel. Ainsi, y a-t-il au cours d'une analyse différentes consistances, textures du temps ou perceptions de la durée, qu'il s'agisse du sentiment d'urgence au départ, des moments d'accélération quand tout à coup une interprétation fait mouche, ou au contraire de suspension, de ralenti, voire d'infini, quand se déploient les tours de la demande et qu'on a l'impression de tourner en rond. Puis, le temps de la fin et la contingence qui le détermine. Alors, la durée d'une analyse, est-ce le temps qu'il faut pour que se produise un événement, se réalise une expérience, expérience qui est aussi traversée d'un danger, comme nous l'indique l'étymologie « expériri ». Est-ce le temps que dure pour un analysant l'option qu'il a faite à l'entrée de l'analyse, comme nous l'avons évoqué la fois dernière? Et jusqu'où cette durée relève-t-elle de la persistance ou de la permanence? Enfin, est-ce le temps nécessaire pour arriver à produire un son sans le sens? Toutes ces questions renvoient bien sûr à divers points de vue selon les moments de la cure que j'évoquerai. Pour développer ensuite sur le temps de la fin de l'analyse, lequel, rétroactivement, donne la raison de sa durée. Outre mes lectures, je me suis appuyée pour écrire ce texte sur ma propre analyse, ainsi que Marc Strauss nous invite à le faire dans l'argument de ce séminaire. Que puis-je dire donc des différentes étapes d'une analyse rendant raison de sa durée? Première étape, première séance, celle de la rencontre avec un analyste et le sentiment d'urgence qui l'accompagne. La cause de cette rencontre, ça ne tourne pas rond. Je me sens perdue, égarée. En tentant d'expliquer ce qui ne va pas, je remonte à un épisode traumatique de mon enfance qui, sous couvert d'un don, met en scène une demande faite au père. L'analyste termine la séance en soulignant la part que j'y ai prise. Je suis à la fois stupéfaite par l'évidence de sa remarque, avec l'effet de dessillement qu'elle provoque pour moi, et comme allégée, je ressors avec le sourire. Cet effet de dessillement n'en reste pas moins énigmatique. Mais déjà la plainte, le reproche fait à l'autre sont entamés par une question sur la raison de mon geste. Question à laquelle l'analyste aurait chance de répondre. Dans cette rencontre avec un analyste qui ait chance de répondre, il y a une part de contingence. Elle ne se fait pas toujours dès la première fois ou avec le premier analyste. Cette contingence s'inscrit donc dans les conditions pour qu'une analyse puisse se faire. Après cette amorce de rectification subjective, la suite des entretiens préliminaires accentue la dimension énigmatique du symptôme. Pour qu'un sujet fasse l'option de l'analyse, il faut que cette dimension d'énigme fasse appel pour lui et porte une promesse, un espoir, celle que son déchiffrage fasse réponse, lui donne le sens, sens comme signification et sens comme direction, bref, livre une solution, voire la clé de son être. Autrement dit, l'analysant croit en son symptôme. Il croit que celui-ci peut lui dire quelque chose, et cette croyance est l'exact pendant de celle au sujet supposé savoir, puisque celui-ci vient en place de complémenter le symptôme, dont Lacan nous dit dans le séminaire RSI, leçon du 21 janvier 1975, qu'il est à ce moment quelque chose qui se rapprocherait des points de suspension. Lesquels points de suspension précèdent ou pire, dans le titre du séminaire 19, et que nous retrouvons également dans le séminaire encore, quand Lacan, à propos de l'amour, parle des points de suspension à quoi s'accroche tout amour. Or, pas de croyance sans passion. Pour l'hystérique, sa croyance aux symptômes est homogène à sa passion de sauver le père idéal, ici représenté par l'analyste, celui qui saura lui dire enfin ce qu'elle est comme femme. Et la persistance du transfert est à la mesure de la permanence de sa croyance. Ainsi fait-elle, le temps que dure cette croyance, le siège de l'analyste, aussi bien dans le sens de l'assaillir de sa demande que d'en faire un rempart en le fixant à son fauteuil. Pourquoi ne pas appliquer aussi au transfert ce que dit Lacan à propos de l'amour ? De la contingence de la rencontre, en l'occurrence celle avec un analyste qui a chance de répondre, vouloir en faire une nécessité en y donnant sens, justification et embrouille. Ainsi le transfert, condition nécessaire de l'analyse, constitue-t-il aussi un obstacle pour sa fin ? Le temps du déchiffrage du symptôme est celui de l'association dite libre, temps linéaire de la remémoration, où l'analysant déroule en même temps qu'il y ajoute un par un des maillons, et ce à l'infini, la chaîne de son histoire. C'est aussi le temps où, parallèlement à la construction du fantasme, l'analysant développe la signification du sujet supposé savoir. Pour cela, il tente de répondre en se mettant à la place de l'autre, et dans ce mouvement, c'est toujours le signifiant qui le précède, qui le devance. Et puis, on le sait, parler fait du bien. Récemment, une analysante disait en séance qu'à une de ses amies qui lui demandait comment c'était une analyse, elle avait répondu « ça fait du bien de prendre le temps de parler », à quoi elle a ajouté « et le temps de savoir ». Avoir un espace à soi, un temps à soi, qui nous extrait des dictates du temps pressé de l'époque et de son discours, pour avoir chance d'entrer dans un autre, nul doute que cela fasse partie des raisons pour lesquelles une analyse se poursuit. Et c'est vrai aussi que pendant l'analyse, la satisfaction d'obtenir des bouts de savoir inconscient, de dégager des signifiants maîtres, nous pousse à continuer, encore et encore. Mais ces bouts obtenus creusent en fait un manque à savoir qui recouvre l'horreur de savoir. Concernant ce temps du déchiffrage, on ne peut parler pour autant d'une durée continue. Car l'analyste, en tant que semblant d'objet A, fait grain de sable, actualise par la coupure de la séance l'urgence de l'entrée et introduit par son acte une discontinuité dont les moments constituent autant de moments cruciaux que de risques de sortie. Je me souviens de deux moments de sortie évités dans mon analyse. Ce n'est pas au moment de quelque émergence du réel que la première a été envisagée, mais plutôt par le fait que je l'avais bien, trop bien recouverte. Faisant part à mon analyse de mon souhait d'arrêter, celui-ci me répond « Ah bon ? Je pensais que vous vouliez faire une analyse. » « Ah oui, c'est vrai ça. Mais au fait, c'est quoi une analyse ?» Bon, on continue. Autre moment de sortie évité après une séparation, croyant ma question réglée, je pense me séparer aussi de l'analyste. Persistant ainsi à imputer la faute du non-rapport à l'autre, pour éviter d'affronter la question de l'impossible et de ma propre jouissance. L'analyse continue donc. Plus je parle, plus ma parole me semble entachée de soupçons. J'essaie de dire au plus près, mais ça sonne faux. Et je fais un rêve où, tel un instrument de musique, j'émettrai enfin un son, une note juste. C'est plutôt sous la forme d'un inentendable que l'indicible s'impose d'abord, et ce, sous la forme d'un cauchemar que, pendant un temps, je ne pourrais raconter sans en être bouleversée. Il y a également une modification de mon symptôme, qui condense, reprend dans une sorte d'épure les deux temps de l'épisode traumatique évoqué lors de la première séance. Cette nouvelle forme du symptôme me fait me heurter sur un mode de plus en plus resserré au mur de la castration et à la faille dans l'autre. Après la chute des identifications, l'aperçu du fantasme, et au-delà de l'objet que je me fais pour l'autre, je cerne un impossible. Il y a vacillement, pour ne pas dire encore chute, du sujet supposé savoir. Survient le moment d'entrer dans la passe. Puis je suis désigné pour être passeur. Cette expérience relance ma propre analyse et le désir de devenir analyste, pas du tout programmé au départ, mais qui n'est pas encore le désir de l'analyste. Ainsi, mon analyse se poursuit jusqu'à ce que se produise un formidable malentendu avec mon analyste, lequel est à mettre en relation avec l'inentendable évoqué plus haut. La raison pour laquelle j'ai donné comme titre à mon argument un dernier camp retranché est que tant que la dissolution de l'imaginaire liée à l'analyse ne s'est pas faite, il n'y a pas réellement chute du sujet supposé savoir. Quelque chose tient encore, qui s'est replié sur la personne de l'analyste. Il y en a au moins un à qui on peut tout dire, qui entend, qui répond, même quand il ne dit rien. Un dont on croit qu'il nous est le plus proche. Le lien à l'analyste maintient l'illusion de l'unification possible du sens et de la jouissance. Or, sens et jouissance s'excluent. Dans ce texte, j'ai à plusieurs reprises utilisé un vocabulaire guerrier, à commencer par le titre, un dernier camp retranché, et aussi avec des expressions comme position de repli, faire le siège, faire chuter, faire tomber, cerner, sans parler du bon petit soldat que l'analysant se voue à être. C'est pour exprimer ce qu'on pourrait désigner d'une lutte entre la jouissance vivante et la jouissance de la chaîne. Il faut qu'à un moment, ce soit la première qui prenne le pas, exactement comme le pas qui précipite avant les deux autres le troisième prisonnier, au dehors, dans le temps logique et l'assertion de certitude anticipée dans les écrits. À la fin, on ne s'appuie pas sur un mot, mais sur un acte. Et à l'incertain de l'autre se substitue un incertain. Il y avait eu dans mon énonciation à un moment où je m'adressais à l'analyste sur le pas de la porte, une équivoque provoquant ce malentendu. Invité par l'analyste à en dire quelque chose, je refuse d'y donner sens. Et à propos de don naissance, c'est là que je situe le point d'origine du s'autoriser à devenir analyste. Cette scène du malentendu avec l'analyste concentre aussi un alpha et oméga de la cure, car elle fait écho à cette autre scène évoquée lors de ma première séance. À ce moment, j'ai cessé de recouvrir la castration de l'autre. Ainsi, mon acte répond-il à l'instant de voir de l'entrée. J'aurais pu arrêter là, mais après une courte interruption, je décide de retourner aux séances pour essayer d'élaborer, de dire un bout de ce à quoi m'a mené la cure, en tirer la conclusion et prendre acte de ce qui ne passe pas au savoir, car c'est cela qui me servira pour mon acte dans ma pratique. Et pour cela, la séance est un lieu unique dont on peut parfois même avoir la nostalgie. Cet événement dans mon analyse, je pourrais dire même événement de corps, comme Lacan le dit du symptôme, qui apparaissait comme invraisemblable, incroyable, autre nom du réel, a tranché suffisamment pour que je me dise « voilà, c'est ça une analyse ». Un dernier retour sur ce moment de bascule. Qu'est-ce qui s'est joué là ? Au refus de l'analyste, j'ai opposé mon refus d'associé, de raccrocher à la chaîne du sens. À la fin, ce n'est pas la satisfaction d'avoir obtenu quelque chose d'insignifiant, mais plutôt une satisfaction liée à une perte et à une certitude. Il n'y a pas d'autre du dialogue, fin de la croyance. Plus rien à attendre de l'autre avec un grand A, ce qui n'exclut pas bien sûr de cheminer avec quelques autres un trié sur le volet de la lettre.